Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, nous accueillons Patrice Biancone, conseiller municipal d'Hossegor, chargé de la culture et commissaire au Salon du Livre et des Expositions. On va parler de lui et aussi, bien sûr, de la 27e édition du Salon du Livre d'Hossegor. Bonjour Patrice, comment allez-vous ?
De me recevoir ici, à Tos, dans vos studios. C'est très aimable à vous.
Alors, on va passer une heure ensemble et on va discuter un petit peu. D'abord, on va écouter le Flash Info national et international. Et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour avec Patrice. Alors Patrice, la tradition, c'est quand on reçoit des gens, on aime bien avoir un petit peu des infos sur eux. Et je vais vous demander un petit peu votre, alors ce qu'on appelle, on en a parlé aux antennes, la trajectoire. Hein. On va du point A au point B.
Alors du point A au point B.
Voilà,
c'est
mais
une longue histoire.
Mais c'est jamais une ligne droite.
Hein. Non. Hein. Et une longue histoire aussi.
Voilà. Donc si vous pouvez me parler un petit peu de tout ce que vous avez fait. Auparavant, je sais qu'il y a de la matière.
Oui, c'est une vie que je qualifierais de bien remplie, hein, dans le fond. Finalement, avec des virages, avec des activités différentes, avec des rencontres incroyables dans ma vie, par les métiers que j'ai pu exercer, c'est-à-dire j'ai été à la fois journaliste, j'ai écrit quelques livres, et puis j'ai été conseiller du président de la République à l'Élysée de 2012 à 2017. Et puis ensuite, j'avais une maison ici, dans la région, à Hossegor, que j'avais achetée il y a plus de 20 ans. Et je me suis rabattu ici pour écrire et pour me livrer à mes activités. Et du coup, on m'a proposé de partir pour les élections municipales et j'ai accepté. Et aujourd'hui, voilà, je me retrouve, si vous voulez, donc délégué à la culture, en charge notamment des expositions et du Salon du Livre. C'est un long parcours que je qualifierais de... Il m'a apporté beaucoup, voilà. Notamment le métier de journaliste, puisque ça m'a fait beaucoup voyager, puisque j'étais grand reporter au départ. Ensuite, je suis devenu rédacteur en chef à Radio France. Mais j'étais très heureux d'exercer ce métier, cette profession. Je crois que ça m'a beaucoup apporté, beaucoup enrichi. Oui. Et ça m'a fait découvrir des horizons que je n'aurais pas découvert par ailleurs, si j'avais fait autre chose.
Oui, tout à fait. Ce genre de métier où on rencontre des gens... Et on apprend des choses.
Mandela, par exemple, que j'ai pu rencontrer, puisque voilà, qui nous a reçus chez lui à une époque où il est sorti de prison. Voilà, des écrivains, des philosophes, des hommes politiques de premier plan. Enfin, bon, plein de choses qui alimentent la réflexion finalement et qui vous structurent.
Qui enrichissent
beaucoup.
Oui, alors vous êtes auteur aussi, vous avez écrit combien d'ouvrages ?
Alors deux pour l'instant et je suis sur le troisième.
Ah voilà, justement, ça fait partie des questions. Alors, on peut parler un petit peu de ce que vous avez écrit.
Oui, alors le premier, c'était mon expérience à l'Élysée, si vous voulez, où c'était un peu compliqué, puisque c'était sous la présidence de François Hollande. Et c'était un mandat qui a été... Moi, j'étais chef de cabinet de la Première Dame au départ. Ensuite, quand ils se sont séparés, je parle de Valérie Trierweiler, bien sûr. Et quand ils se sont séparés, le président m'a dit « Non, tu restes à l'Élysée, toi. » Alors que je proposais ma démission, puisque Valérie s'en allait, j'étais son chef de cabinet. Et donc, il m'a dit « Non, tu restes. » Et je suis rentré dans son cabinet pour m'occuper notamment des associations, des fondations et des ONG.
D'accord.
Voilà.
Alors, ça consiste en quoi cet emploi, si on peut le qualifier de ça ?
Cet emploi, écoutez...
C'est quoi exactement ?
L'Élysée, c'est un endroit où on décide, c'est un endroit où on décide des politiques à mener, et puis le gouvernement met en musique les décisions qui sont prises souvent par le président, les orientations dans tous les cas. Mais le rôle, c'est qu'on reçoit beaucoup de demandes dans le fond, notamment auprès de la Première Dame, puisque toutes les associations... Tous ceux qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, souvent, en dernier recours, s'adressent à la Première Dame. Et on recevait un courrier mais énorme chaque jour. C'était des centaines de lettres tous les jours, avec des gens qui étaient dans des situations parfois très difficiles, insolubles même, ou des gens qui avaient des projets qu'ils avaient du mal à mettre en route, et donc ils faisaient appel à la Première Dame, sachant qu'elle a un rôle social qui est très important.
Oui, c'est vrai que même à une époque, ça a été questionné à un moment donné. Est-ce que le rôle de première dame est légitime? Est-ce que ça existe vraiment?
C'était le grand débat quand Valérie est arrivée, mais c'est un débat qui perdure. Alors avec Brigitte Macron, un peu moins, parce que Emmanuel Macron, fort de son expérience avec le président Hollande, a bien compris que de ce point de vue-là, il fallait que les choses soient apaisées, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment.
Voilà.
Et il a fait une charte Macron, à la différence d'auparavant où il n'y avait rien, car il faut savoir que la première dame n'a ni statut, ni budget, et normalement très peu de collaborateurs. Et pourtant, elle est tellement sollicitée, et même souvent, elle part en représentation et représente le président sur le terrain. Donc, le minimum, c'était une charte, en tout cas, à défaut de statut, une charte qui permette de jouer la transparence. Vous savez qu'elle n'a pas de budget, elle n'a pas de carte bleue, c'est interdit, formellement.
Oui, bien sûr.
Donc, il faut faire avec les moyens du bord, ce qu'on essayait de faire chaque fois, et même quand on est parti en déplacement en Afrique ou en Inde pour lever des fonds pour les associations, il fallait se débrouiller.
Après, c'est un statut qui n'existe pas qu'en France, d'ailleurs. Même aux États-Unis, il y a plein de pays où...
Il y a une première dame aux États-Unis. Il y a un statut pour la première dame. Elle a des missions, par exemple. Madame Obama s'était occupée notamment de l'obésité aux États-Unis. Elle avait beaucoup fait pour régler ce problème, avec succès d'ailleurs. Michelle Obama a été très active.
Oui, c'est vrai, oui. Ainsi que son mari.
Voilà, un peu moins avec Trump.
Qu'on regrette un petit peu.
Trump, c'est une autre histoire. Mélania est laissée de côté, bien entendu, mais les enfants de Donald Trump, eux, sont actifs.
Bien sûr, c'est dynastique. Il n'y a pas de place, avec l'ego qu'il y a, il n'y a pas de place pour une première dame à ses côtés, je crois.
Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu le problème souvent qu'elle part lui accorder.
Voilà. Alors, vous avez écrit aussi un deuxième livre, alors on en a parlé un petit peu hors antenne.
Oui, absolument. Alors là, c'était consacré à la musique, mais ça correspondait plus à une passion que j'ai depuis toujours, comme je pense un peu comme vous, Jean-Philippe. Qui est la musique, évidemment. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, j'ai passé du temps à Londres en particulier, et puis aux États-Unis pas mal de temps, où j'ai un fils d'ailleurs qui vit, et qui est devenu citoyen américain. Mais un jour, je suis tombé sur une annonce. C'était une mise aux enchères de la vente d'une guitare. Une guitare qui était une Les Paul, une Gibson Les Paul, 1959. Cette guitare avait appartenu à Peter Green, qui est le fondateur de Fleetwood Mac, qui avait joué avec John Mayall et qui passait pour un des meilleurs guitaristes de son époque. Et d'ailleurs, à un tel point que, vous savez qu'on disait de Eric Clapton, c'est God, on l'appelait God. Eh bien, on a pu voir à Covent Garden notamment, à la sortie des concerts, sur les murs inscrits « Eric Clapton is not God, Peter Green is God ».
Et oui, parce que Clapton, il est plus strato.
Et voilà, et là, c'était une Gibson. Mais alors, cette Gibson, qui est très particulière, qui a été vendue aux enchères 3,5 millions de dollars, pour vous dire, pour une simple guitare, et rachetée par Kirk Hammett, qui est le soliste du groupe Metallica. Absolument. Il a payé ça 3,5 millions, et il a dit une chose qui était formidable, d'ailleurs, Kirk Hammett, il a dit « je n'achète pas une guitare », parce qu'on lui parlait du prix, on disait « mais ce prix est excessif ». Et il a dit non, mais je ne rachète pas une guitare, je rachète un morceau de l'histoire du rock. Et j'ai trouvé ça admirable. Et donc je me suis intéressé à cette guitare, comprendre pourquoi tout le monde se battait, parce que Jimi Hendrix avait essayé cette guitare, George Harrison, enfin les plus grands guitaristes de l'époque se sont employés à jouer avec Greeny, parce que la guitare, elle avait un nom, c'était un autre guitariste qui lui avait donné ce nom, Greeny, et elle avait un défaut de fabrication. C'est-à-dire que le micro-manche, ce qu'on appelle le micro-manche, micro le plus haut, le plus près du manche, était monté à l'envers. Et c'était un défaut de fabrication qui la rendait unique. Elle avait un son exceptionnel. Je vous conseille de l'écouter, notamment sur des morceaux comme Black Magic Woman, car il ne faut pas croire que c'est Santana qui a créé Black Magic Woman.
J'ai retenu la leçon, je ne dirai plus.
C'est Peter Green. C'est Peter Green, et vous avez un son absolument admirable grâce à cette guitare.
Bon, ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est le parti pris que vous avez pris, l'angle d'attaque. C'est vraiment très particulier, parce que sans spoiler, je pense qu'on peut le dire, que c'est... Vous le point de vue de la guitare.
Absolument, c'est elle qui parle.
Voilà, c'est ça, et ça c'est quand même inhabituel.
Ben oui, parce que je lui ai donné une identité, parce qu'elle avait une identité. Donc j'ai voulu, c'est l'idée, je me suis dit, elle est passée en plus dans les mains de tellement de guitaristes, elle a vécu des choses exceptionnelles, y compris la folie de Peter Green, car Peter Green était un musicien exceptionnel, et il a quitté John Mayall, il monte Fleetwood Mac, et il pète les plombs un jour, parce qu'à l'époque, il y avait des, vous le savez,
des substances
Substances, et le LSD en particulier, c'était la grande époque du LSD, puisque c'était entre 67 et 70, et donc il faisait des tournées aux États-Unis, et notamment avec Grateful Dead, ils ont joué plusieurs fois avec Grateful Dead, et Grateful Dead, avec Ken Kesey et d'autres, étaient des... Vous savez, ils organisaient les acid tests. C'est-à-dire que vous alliez au concert de Grateful Dead à l'époque, et il y avait des grandes bassines à l'entrée, et ils vous donnaient un verre de LSD. C'est-à-dire que tout le monde était plané.
C'est un peu dangereux.
C'est très dangereux, même. Je ne recommande ça à personne.
Non, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
Et d'ailleurs, Peter Green a été une des premières victimes. Un jour, il était à Munich, il était invité pour donner un concert dans une communauté hippie, et il y a un acide qui lui a été donné, c'est un acide frelaté, c'était, et il n'est jamais redescendu,
c'est ça,
il est devenu fou, et donc il voulait tout vendre, il voulait arrêter, il voulait donner tous les cachets que Fleetwood Mac encaissait pour résoudre le problème de la faim dans le monde, enfin il était habité, il pensait que Dieu lui parlait, enfin il était en pleine... Vous voyez, il était en pleine paranoïa, il a tout vendu ce qu'il avait, et notamment sa guitare.
Ben voilà, c'est déjà le moment de faire notre première pause, une petite pause musicale. Ben on va écouter aussi un célèbre guitariste qui joue de manière bien connue de Les Paul. Vous allez voir qui c'est. Et nous voilà de retour. Ben c'était Slash, le guitariste de Guns N' Roses, qui a toujours une superbe Les Paul noir, hein. Ça fait partie des guitares héros. Chante
du Bob Dylan.
Formidable. Qui chante du Bob Dylan, effectivement. Absolument. Prix Nobel de littérature qui n'a pas voulu aller chercher. Bon. C'est son côté anti-système, sûrement, qui fait que. Ouais, voilà.
Dylan, c'est une histoire des États-Unis. Tout seul.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est intéressant d'évoquer votre carrière d'écrivain, puisqu'on va parler un petit peu du salon du livre. Là, c'est la 27e édition. À Hossegor. Avant de parler de celle qui nous arrive là bientôt, c'est possible de faire un petit bilan, parce que ça fait quand même pas mal d'années.
27 ans que ce salon existe. Alors vous savez que, je ne l'apprends pas, que Hossegor a été fondé essentiellement, je ne parle pas de Sortz, je parle d'Hossegor pour le coup, puisque la commune regroupe à la fois Sortz et Hossegor. C'est Sortz-Hossegor, on devrait dire d'ailleurs, on ne devrait pas dire.
Des fois on ne sait pas trop Hossegor. En fait, même des fois. On doit dire Hossegor ou Sortz-Hossegor ou Sortz.
Il faut dire Sortz-Hossegor.
D'accord, c'est officiel, voilà. Messieurs, dames, c'est officiel.
C'est officiel et c'est marqué au fronton maintenant de la mairie. Sortz existait. Hossegor a commencé à vivre à partir du début du XXe siècle, grosso modo. Disons que dans les années 20, il y a un certain nombre d'écrivains qui appartenaient à l'Académie Goncourt qui sont venus s'installer ici. Il y avait les frères Rosny, le parc de Hossegor s'appelle Rosny, c'était les frères Rosny, notamment Rosny jeune qui avait écrit La guerre du feu, que Jean-Jacques Arnaud avait porté à l'écran.
Voilà,
ce sont les frères Rosny.
Que j'ai lu il y a longtemps.
Et donc, ces frères Rosny, Maurice Roy, enfin, il y en avait, et Paul Marguerite, par exemple, aussi, qui étaient à l'Académie Goncourt. Ils se sont installés ici parce qu'ils trouvaient que le lieu était propice à la réflexion et à l'inspiration. Et petit à petit, ils ont fait venir leurs amis, des gens qui, les frères Goncourt même, sont venus ici, plein d'écrivains qui venaient. Et puis tout le monde s'est installé là et ils ont donné naissance à cette urbanisation avec l'aide du maire de l'époque, M. Luer. Et puis voilà, l'histoire a débuté comme ça. Et donc la ville aujourd'hui essaie de conserver cette espèce de patrimoine. Voilà, qui est un patrimoine littéraire essentiellement. Donc, sans parler de la beauté du lieu, parce que c'est une des rares cités-jardins de France. L'action s'est poursuivie. Et puis, il y a l'océan, donc le surf, qui est apparu dans les années 70. Donc, la ville s'est développée aussi sur cette idée du surf. S'est fait connaître comme ça, internationalement, et parce que c'est un des meilleurs spots, comme vous le savez. Et donc, les surfeurs venaient. Et il y a eu un maire qui s'appelait M. Dussin, il y a quelques années, qui a pensé que avoir les jambes c'était bien, mais il fallait aussi avoir la tête.
Et, oui.
Et que le sport et la culture devaient fonctionner ensemble, ce qui n'était pas une mauvaise idée, je pense. Ça permettait d'avoir. C'était qualitatif, si vous voulez. Voilà, la recherche était là. Et donc, ils ont réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ils ont lancé notamment cette idée de créer un salon du livre ici, puisque la ville, au départ, était habitée par des écrivains. Donc ce salon a pris naissance, on en est aujourd'hui à la 27e édition, c'est-à-dire 27 années quand même depuis, se sont écoulées, et nous essayons de poursuivre l'œuvre et puis de l'adapter au temps d'aujourd'hui, parce que les temps ont changé, comme vous le savez, la lecture, l'écran, etc., vous savez, il y a de nombreux problèmes, les éditeurs se battent pour faire en sorte que le livre continue à exister, et nous menons aussi avec eux ce combat, organisant cette manifestation.
Oui. Alors, on va parler aussi là. Je sais que vous êtes attaché à l'aspect jeunesse.
C'est le combat essentiel, je crois, aujourd'hui. J'écoutais ce matin, c'est d'ailleurs assez amusant, parce que je viens chez vous pour parler de ça. Et j'écoutais ce matin sur France Inter, il y avait une émission dans laquelle qui était consacrée au livre, justement, et à la lecture. C'est un peu paradoxal parce que finalement, depuis le Covid, on vend pas mal de livres. Les maisons d'édition ne se plaignent pas trop de ce point de vue-là. Mais on se rend compte que chez les jeunes, la lecture a reculé d'environ 5 points par rapport à précédemment. Et qu'essentiellement, les lecteurs aujourd'hui sont âgés de... C'est un public féminin d'abord. L'essentiel des lecteurs, c'est un public féminin. Voire de 64 ans et plus.
Oui.
Donc il y a quelque chose à essayer de rectifier, parce que
apparemment
il y a 30 ans c'était pas le cas, les jeunes ne lisaient plus, mais les écrans ont fait beaucoup de mal de ce point de vue-là aux livres. Et nous essayons donc de mettre en place une politique qui permette aux jeunes de revenir vers le livre. Et c'est finalement le monde entier est contenu dans les livres. Toutes les aventures de l'être humain sont contenues dans les livres.
On peut vivre plusieurs vies si on lit plusieurs livres.
Absolument. Et des expériences que vous n'avez pas vécues, vous pouvez les partager avec ceux qui les ont vécues par l'intermédiaire du livre. Donc il faut préserver ça. Ça enrichit, ça rend plus intelligent. Et puis, quand on réfléchit à plusieurs, c'est toujours mieux que de réfléchir seul. Donc... vive la lecture.
En quelque
sorte, donc, nous avons mis en place une politique, si vous permettez, Jean-Philippe. Nous avons mis en place une politique, et notamment de collaboration avec les établissements scolaires de la région, que ce soit Saint-Vincent-Tyros, Angrès, Cap-Breton.
Oui.
Ils tous sont associés, notamment au Grand Prix de la BD, qui est décerné par ce salon. Et il y a donc un jury qui est composé d'élèves. C'est eux qui choisissent qui aura le prix. Et ensuite, ils viennent pendant le salon pour interroger les auteurs du livre en question.
Et nous voilà de retour après Fleetwood Mac. Bon, c'était un petit clin d'œil à notre invité.
Merci.
Voilà.
Merci Jean-Philippe. J'aime beaucoup ce morceau.
Ouais. C'est bizarre. Hein. Oui, donc on parlait de ce salon et puis aussi de la jeunesse. Alors donc du coup l'angle d'attaque lié à la BD. Hein, donc on vous dit que c'est le sang des les jeunes qui.
Oui, je crois que c'est la première lecture des jeunes adolescents ou un peu plus âgés. Ce sont les mangas, vous le savez.
Tout à fait.
Donc c'était une des raisons pour lesquelles d'ailleurs, dit-on, le pass culture a été supprimé parce que ça allait au manga. On appelait ça le pass manga.
Parce que
les jeunes achetaient les mangas avec ce pass culture.
Oui.
Je trouve que c'est une erreur monumentale de la part de ce gouvernement de supprimer ce pass culture parce que je crois qu'il permettait quand même aux plus jeunes d'aller dans les librairies.
C'est une porte d'entrée.
Bien sûr que c'est une porte d'entrée. Toute lecture est une porte d'entrée à des choses plus sérieuses, un peu plus structurées, un peu plus conséquentes. Et je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied que de procéder ainsi.
Oui.
Alors, je le regrette.
Ben oui, tout à fait. C'est vrai que le pass culture, de toute façon, on sait bien que la culture, ça sert à rien, mais c'est indispensable.
Et puis c'est paradoxal parce qu'on se plaint de la déstructuration d'une certaine jeunesse. On voit ce qui se passe. Il y a une violence permanente et quotidienne dans ce pays de plus en plus. Et je pense que si l'éducation passe aussi par la lecture, passe par le partage d'expériences.
Bien sûr.
Supprimer des outils tels que ceux-là qui permettent un accès à la culture, c'est une erreur politique pour moi, tout simplement.
Oui, oui. Oui, c'est sûr que ça a un impact sur la société. Si les idoles des jeunes, c'était, je sais pas, des prix Nobel de la paix ou de littérature plutôt que des footballeurs ou des champions de MMA, peut-être qu'il y aurait un petit peu moins de violence dans la rue, peut-être, je sais pas.
Absolument.
Peut-être.
Dernier prix Nobel de la paix, c'était Denis Mukwege, qui est un médecin, un professeur de médecine congolais, que j'ai rencontré puisque je suis allé dans son hôpital à Panzi, qui est à la frontière du Rwanda.
Oui.
On est allé l'aider quand il était menacé par les rebelles.
Oui.
Et donc, à l'époque, je travaillais à l'Élysée et on avait réinstallé son hôpital. J'ai rencontré cette personne qui est un puits de culture.
C'est pas le réparateur de femmes ?
Si, absolument. Voilà.
Enfin, je ne sais pas si c'est le terme.
Ce qu'il dit. Lui-même dit je ne suis pas médecin. On était allé là-bas pour lui apporter des médicaments, pour sécuriser l'hôpital qui était attaqué par les rebelles. Il a soigné plus de 40 000 femmes. Et il disait je ne les soigne pas, je les répare.
Oui, c'est vrai.
Car l'histoire, c'est que le viol est devenu une arme de guerre. Comme aujourd'hui, la famine est devenue une arme de guerre.
Tout à fait.
Et le viol était une arme de guerre. Et lui récupérait ces femmes qui avaient été violées et ses enfants, même souvent. Et une fois, quand on était là-bas, il nous a même présenté une famille. Il y avait la grand-mère qui avait été violée par les rebelles. Il y avait la mère qui était aussi, qui avait été aussi massacrée par les rebelles. Et la petite fille qui devait avoir 6 ans qui avait été aussi violée par les rebelles. Et lui, il disait, je ne les soigne pas, je les répare. Et ensuite, il les conservait dans son périmètre pour pouvoir les réadapter à la vie.
Oui.
Et même, il leur apprenait un métier quand elle n'en avait pas. Pour ensuite, quand elle quittait l'établissement, qu'elle puisse se réinsérer, vivre et subvenir à leurs besoins par elle-même.
Bien sûr. Alors, pour revenir à ce festival, il y a aussi un concours de nouvelles. Alors,
absolument.
Alors, on parlait des jeunes, etc. Est-ce que ça concerne des jeunes ? Est-ce qu'il y a des jeunes, je ne sais pas de quel âge, qui se lancent à cet exercice qui n'est quand même pas évident ?
Alors, il y a de tout.
Ouais.
On rencontre à peu près tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce prix de la nouvelle, le prix est décerné de manière anonyme. C'est-à-dire que les candidats nous envoient leurs nouvelles écrites.
Oui, oui.
Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de numéro de téléphone,
d'accord.
Il n'y a rien. La copie, c'est juste la copie. Et donc, on a un jury avec des libraires, notamment Le Vent des Lires, qui se situe à Cap-Breton.
Oui.
On a des enseignants comme Cécile Cluzeau, qui est la présidente de ce prix de la Nouvelle et qui enseigne à Saint-Vincent-Tyros, qui est une agrégée de lettres. Il y a des gens de la communication, il y a des gens qui s'intéressent au livre et qui font vivre ce prix qui est doté de 500 euros,
c'est
une petite aide à ceux qui écrivent et puis c'est un encouragement et d'autant plus que la nouvelle qui gagne le prix est publiée par le magazine Côté Land de Audrey Ludwig qui se situe à Dax. Et ce magazine publie la nouvelle à 25 000 exemplaires,
voilà.
Ce qui permet déjà d'être connu un peu, en tout cas dans le périmètre des Landes, voire à l'extérieur, puisque comme il y a beaucoup de passages ici, les gens qui viennent d'ailleurs lisent souvent Côté Landes et donc ont accès à la nouvelle.
Oui, et alors c'est vrai qu'il y a une contrainte, il y a deux contraintes, voilà, évidemment le nombre de signes, c'est calibré la taille.
Environ 5 feuillets, 5-6 feuillets, ça fait à peu près.
Entre 13 000 et 15 000 signes à peu près, ouais. Et donc en fait, on part d'une phrase, d'une citation, c'est une biographie de...
Il faut voir que le Salon du Livre d'Ossogor est structuré de la manière suivante. Il y a un prix de la BD, qui est réservé aux jeunes. Il y a un prix de la nouvelle et il y a un prix de la biographie historique. Alors le prix de la biographie historique, en général, on propose à la lecture aux membres du jury qui choisissent dans le prix de la biographie, celui qui a eu le prix de la biographie, choisissent un petit extrait que nous mettons intitulé pour le prix de la nouvelle. C'est à partir de là.
Ça ne veut pas dire
qu'il faut reprendre l'extrait.
Non,
mais il faut essayer de le comprendre et à partir de là, imaginer une histoire et la traduire par des mots.
Voilà, c'est ça. Et donc la consigne, là, c'était la racine d'écriture, c'était elle a fait le pari du scandale et du vertige.
Oui. Absolument.
Ouais. Alors là,
c'était Jeanne du Barry.
Ouais, Jeanne du Barry. Ouais. Donc là, c'est à partir de là, on doit tisser sa toile.
Voilà, alors vous avez le scandale et Voilà, oui. Vous pouvez, à partir de là, imaginer
scandale,
mille choses.
Le vertige, ah oui, oui, c'est... Oui, oui.
Voilà, le vertige, le scandale, est-ce que le scandale va avec le vertige, est-ce que le vertige va avec le scandale, et comment tout ça peut s'agencer. Et alors, je vais vous dire que cette année, c'est d'ailleurs c'est la deuxième fois depuis que je suis commissaire de ce salon, c'est la deuxième fois que le prix est revenu à quelqu'un du coin. C'est-à-dire de vieux boucaux.
D'accord.
Une dame qui s'appelle Hélène Joseph, qui a écrit une nouvelle, qui a séduit le jury, qui l'a récompensée. Donc elle sera parmi nous les 4, 5, 6 juillet au moment du salon.
D'accord. Bah, elle va être contente parce que...
Oui, elle sera lue en plus sa nouvelle.
Mais c'est ça, c'est d'être lue. Voilà, mais c'est ça en fait. Publiée. Voilà, c'est ça.
Oui.
C'est au-delà de la somme.
Non, c'est pas... c'est un encouragement simplement. Oui. Voilà. Mais effectivement, ça lui donne une petite notoriété. Et puis ça va surtout l'inciter à continuer parce qu'il y a des... si elle est récompensée, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant dans son travail.
Elle a quel âge à peu près cette dame, pour savoir, pour une idée
de... Écoutez, excusez-moi, mais je n'ai pas eu l'indélicatesse de lui demander
son
âge.
D'accord, ok, d'accord.
Mais en tout cas, c'est pas une jeune femme de 20 ans.
D'accord, ok, voilà. C'est ça. Ouais. Ouais. Non, parce que des fois, c'est vrai
ça peut arriver. Ouais. Oui. Mais on a eu aussi quelqu'un qui est de Seniors, qui a été récompensé, qui s'appelle Jean-Paul Gahuser, qui est enseignant de mathématiques et qui se passionne pour l'écriture et qui a été récompensé il y a 3 ans aussi pour sa nouvelle qui était formidable et qui continue à écrire.
Très bien.
C'est
bien que ce soit un mathématicien parce que ça rabat un peu les oreilles aux gens qui veulent tout en séparer les arts et les lettres des sciences.
Il faut avoir 2 jambes pour avancer.
Oui, voilà, donc ça me semble indispensable. Voilà. Ouais. Bon, c'est le moment de faire notre dernière pause et on se retrouve ensuite pour la dernière partie de cette émission et voilà, c'est comme ça, on cause et des fois le temps il passe très vite, mais c'est toujours bon signe. Nous voilà de retour pour la dernière partie de notre émission. Alors, il se passe plusieurs choses. Il n'y a pas que donc ces concours. Il y a aussi des conférences. Il y a aussi des moments d'échange, d'ateliers artistiques et de lecture et de dédicaces.
Et même de dessins. Voilà. Puisque on fait venir aussi des collégiens pour travailler sur des mangas. On a un atelier manga pour enseigner aux jeunes qui sont intéressés par le dessin et par les mangas. On a un atelier manga, on a un atelier, on travaille, je vous dis, avec les lycées, les collèges du coin qui sont vraiment très favorables à ça.
Alors c'est vrai que la BD au sens large, j'inclus les mangas, on va dire, c'est quand même quelque chose qui fait converger plusieurs exercices artistiques.
Absolument.
Il y a de la narration, il y a de l'écriture,
il y a un scénariste pour les BD, il faut le savoir. Voilà, ce sont des équipes qui travaillent même. On a un scénariste, on a un dessinateur, on a un coloriste même. Vous voyez, des fois. Donc c'est parfois un peu complexe. Alors là, cette année, pour tout vous dire, c'est Guy Delisle qui a obtenu le prix, qui nous a fait un livre magnifique chez Delcourt, consacré à Edward Maybridge, qui était un photographe.
Ah, mais fameux connu. Quand on a fait l'animation, on connaît Maybridge.
Voilà, donc vous savez que c'est le premier à avoir réussi à photographier, à fixer...
La biomécanique.
Un cheval en pleine course, en plein galop.
Tout à fait.
C'est le premier à avoir fait ça. Il était né de l'autre côté de la Manche.
Oui.
Mais il a fait ça aux États-Unis, notamment avec l'aide d'un riche propriétaire de Hara qui voulait absolument arriver à décomposer le mouvement du galop. Et donc, il a mandaté ce photographe et il a réussi à faire ce que les autres ne parvenaient pas à faire.
Mmh. Ouais, c'est vrai qu'il est connu pour ça. Bon, on voit aussi, il a fait avec des êtres humains qui marchaient, etc. Mais c'est vrai qu'il est connu pour ça.
Donc nous aurons Guy Delisle qui sera là et qui viendra nous parler de ça. Il est à la fois... Alors, pour le coup, lui, il a tout fait, tout seul. C'est-à-dire qu'il a fait les dessins, le scénario, il a tout fait.
Oui, voilà. Ça c'est bien aussi de tout, d'avoir le contrôle aussi, des fois, la démarche artistique et pas la...
Quand ça aboutit à un bon travail, on peut le saluer, c'est le cas aujourd'hui.
Tout à fait. Oui, alors le thème cette année, il y a un thème, c'est biographie et histoire.
Fond du salon, biographie et histoire. Ouais. Alors cette année, le prix de la biographie, il a été donné, je vais vous dire tout de suite, à un historien qui s'appelle Farid Hammer, qui a écrit un livre magnifique sur Lincoln, le président,
le président,
le 16e président des États-Unis.
Oui.
qui était d'une générosité sans pareille, mmh. et qui défendait les droits de l'homme, puisqu'il a lutté contre l'esclavage notamment. Enfin, oui. Il a fait plein de choses merveilleuses dans sa vie. Il a réussi surtout à fédérer ce pays qui sortait d'une guerre fratricide, comme vous le savez. Mmh. Et il a réussi à fédérer ça. Et c'est assez intéressant parce que, justement, nous allons... moi, ce que je recherche aussi, en dehors pour attirer les jeunes aussi, mmh. ici, c'est de parler de l'histoire immédiate. Parce mmh. qu'il y a l'histoire passée, oui. l'histoire avec un grand H, mmh. celle qui relève de l'histoire de France, l'histoire du monde. Mais il y a aussi l'histoire immédiate mmh. à laquelle je suis très attaché. Sans doute, c'est parce que j'ai été journaliste à une époque.
Oui.
Mais l'histoire immédiate, c'est quoi, finalement? C'est l'Ukraine, mmh. aujourd'hui. Hein, mmh. Ce qui nous préoccupe, c'est l'Ukraine, mmh. c'est la Gaza, c'est, et les États-Unis avec...
voilà, forcément, ouais.
avec Donald Trump qui, oui. Si vous le permettez, fait souvent n'importe quoi et mène son pays, d'après moi, quand je vois ce qui se passe à Los Angeles aujourd'hui, presque oui. à la guerre civile.
Ah, oui, oui.
Je suis très inquiet pour ce pays que j'aime beaucoup
oui, ben, oui.
et pour la suite des événements. Mm. Et donc le prix est allé à Lincoln, à M. Prieur, et donc il sera là, bien sûr, puisque nous ne remettons un prix que si l'auteur peut être présent.
Oui.
Et donc nous allons avoir deux conférences, une qui sera consacrée à l'Ukraine avec notamment Nicolas Castera qui est un régional et mm-hmm. qui est parti en Ukraine pour une mission humanitaire au mmh, départ
oui.
et qui ensuite s'est engagé pour combattre aux côtés oui. des Ukrainiens.
Oui.
Et il écrit un livre qui est paru chez Gallimard mmh. et donc il sera présent pour nous raconter son expérience. Mmh, mmh. Il y a Lucas Manger aussi qui a fait ce merveilleux film sur les trains en Ukraine mmh. Qui a été diffusé sur France 2, qui a été très, très, très bien accueilli et qui est diffusé partout. Et puis il y aura Nicolas Rambert qui est un historien, qui est un spécialiste de la philosophie russe pour mmh. essayer de comprendre avec lui. Il a vécu aussi en Russie, j'allais mmh. dire, en Union soviétique.
Oui, jadis.
Et il a vécu dans ce pays, il a beaucoup étudié la philosophie de Kojève qui sous-tend un peu l'action de Staline à l'époque, mmh. qui sous-tendait l'action de Staline et d'autres avec lui, et aujourd'hui celle de... On comprend mieux, si vous voulez, Poutine, si on lit Nicolas Rambert, et notamment la philosophie de Kojève. Mmh. Et puis il y aura l'autre débat sur les États-Unis aussi, qui est important, avec... Mmh. avec donc le prix de la biographie et une journaliste, la seule, une journaliste française, mmh. la seule accréditée auprès de la Maison Blanche, qui est Laurence Haïm.
Ah oui, elle a la chance, parce que c'est difficile d'entrer à la Maison Blanche. Hein.
Oui, mais c'est la seule. Oui. Et depuis, elle a fait le mandat de Clinton, de Obama, ouais, aujourd'hui ouais. de Donald mmh. Trump, et qui aussi nous apportera... sa lumière sur ce personnage et sur ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Mmh. Vous voyez, on passe de Lincoln à Trump, et il s'est passé quelque chose dans ce pays pour qu'on en arrive à ses extrémités. C'est le positif et le négatif, mmh. si vous voulez.
Oui. Oh ben c'est un pays de tous les excès.
C'est un pays de tous les excès. Voilà. Et donc, comment on en est-on arrivé aujourd'hui à Donald Trump qui met à feu à sang Los Angeles en envoyant la garde nationale mmh. et en raflant carrément... les étrangers qui ont des permis de séjour aux États-Unis pour les renvoyer dans leur pays, peu importe,
ils s'en fichent. Enfin,
c'est la déshumanisation de l'Amérique pour moi en ce moment, ce qui se passe.
Oui, et puis c'est contradictoire avec même ce qui est fondateur de ce pays quand même. Donc c'est quand même embêtant.
C'est pour ça qu'il est intéressant.
C'est comme une maladie qui attaquerait ce pays, c'est terrible.
Ouais. C'est pour ça qu'il est intéressant de rapprocher Lincoln de ce qui se passe aujourd'hui mm-hmm. avec Trump, et donc le débat promet d'être très intéressant.
Ah oui, j'imagine, oui. Alors, c'est le moment de rappeler aussi les dates, hein, c'est du 4 au 6 juillet, si je ne me trompe
c'est
pas.
Ça, oui.
Et donc ça se situe essentiellement...
Alors c'est la nouveauté. Là, vous avez, c'est la nouveauté depuis l'année dernière, en fait une nouveauté qui a un an, mm-hmm. mais vous savez que le Sporting Casino est fermé parce qu'il y a des travaux qui mm-hmm. doivent être engagés pour la rénovation du bâtiment, mm-hmm. donc le Sporting Casino habituellement accueillait le Salon du Livre, et donc là on s'est posé la question, moi j'ai souhaité une chose, et dans le fond c'est une opportunité mm-hmm. que j'ai saisie très rapidement, pour que le Salon vive encore mieux, qu'il ne vit, mm-hmm. on va le faire au centre de la ville, donc sur la place de la Concorde, qui est face à la mairie. Mmh. Alors tout est réuni, parce que vous avez de l'espace, mmh. on met des chapiteaux sur lesquels les éditeurs, il y a environ 25 éditeurs régionaux qui viennent, il y a les libraires qui sont installés ici, puis il y a un kiosque à musique sur lequel nous pouvons organiser des animations durant la durée du salon. Mmh. Donc ça se passe là, et les conférences ont lieu à l'intérieur de la mairie. Dans la salle du conseil municipal.
Donc, the place to be du 4 au 6 juillet.
Yes, exactly.
Ben, c'est déjà le moment.
We hope you will be there.
Voilà. Probably. Ben, c'est le moment de se quitter. On arrive à la fin de cette émission. Moi, c'est passé très vite parce que c'était passionnant. Et on avait la chance d'avoir un invité riche dans tous les sens du terme.
Ben, écoutez, je vous remercie, Jean-Philippe. C'est très aimable à vous et à votre radio Souvenir de nous accueillir.